Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir à tous, soir info jusqu'à minuit sans aucune interruption. Merci de nous rejoindre comme chaque soir en direct sur CNews avec Régis Le Sommier. Ce soir, journaliste, expert en politique internationale. Bonsoir, cher Régis. Maxime Thiébaud est parmi nous également, avocat. Bonsoir. Merci d'être présent. Philippe Guibert, ancien directeur du service d'information du gouvernement. Bonsoir Philippe. Bonsoir à nos deux acolytes CNews, Karim Abric de la rédaction, Yohann Uza et du service politique, Alexandre Devecchio. Et dans les parages, il va arriver, suspense, dans quelques minutes, on l'espère du moins. Une émission très chargée encore ce soir, qui démarre bien sûr avec Vladimir Poutine qui met en garde l'Occident et la France, nous les Occidentaux, contre une menace réelle nucléaire. Le maître du Kremlin qui évoque la destruction de toute une civilisation, une guerre appréciée que peut goûter les propos donc d'Emmanuel Macron, qui n'excluait pas en début de semaine l'envoi de troupes au sol en Ukraine. Plus d'explications avant d'en discuter et d'accueillir le général Jean-Paul Paloméros, Maxime Lavandier, pardonnez-moi.
C'est l'exercice annuel de Vladimir Poutine, le discours à la nation. Il s'adresse aux Russes, mais aussi aux Occidentaux et à Emmanuel Macron, qui a évoqué la possibilité d'envoyer des troupes occidentales en Ukraine. La réponse de Vladimir Poutine est ferme et claire.
Et qu'est-ce?
Tout ce qu'ils inventent en ce moment, en plus d'effrayer le monde entier, est une menace réelle de conflit avec utilisation de l'arme nucléaire et donc de destruction de la civilisation. Ils doivent comprendre que nous avons aussi des armes capables d'atteindre des cibles sur leur territoire.
Devant un parterre officiel, le dirigeant russe n'a pas omis le bilan de la guerre en Ukraine qu'il a lancée il y a plus de deux ans. Conforté par les récents succès de son armée face à des Ukrainiens en manque de munitions faute d'accord avec Washington, le président russe a promis que ses troupes remporteront la victoire.
Les capacités de combat des forces armées ont été multipliées. Elles avancent avec assurance en libérant de plus en plus de territoires.
Un discours qui intervient à la veille des funérailles d'Alexei Navalny, dont Vladimir Poutine n'a pas dit un mot, et à deux semaines d'une nouvelle élection en Russie qu'il devrait remporter sans surprise.
Régis Le Sommier, pour commencer, avant d'accueillir le général Paloméros, le président russe, on l'a entendu, extrêmement offensif après la prise de parole du président français. Ce n'est pas la première fois, bien sûr, qu'il agite cette menace nucléaire. C'est peut-être la première fois, vous allez me contredire si je me trompe, qu'il le fait aussi sérieusement.
Aussi sérieusement, aussi solennellement peut-être. Jusqu'à présent, il avait fait dès le début de la guerre, hein, il avait appelé à une levée de l'alerte nucléaire. Donc tout de suite, on avait dit oui, ça y est, il utilise cette menace de l'arme atomique. Il l'a fait à plusieurs reprises. Là, en effet, il y a clairement une volonté de répondre au projet d'envoi de troupes au sol d'Emmanuel Macron, un discours extrêmement solennel, extrêmement incisif, qui en effet est destiné aux Occidentaux, mais est avant tout destiné aux Russes, dans une période où la Russie...
À deux semaines des élections présidentielles.
Voilà, et dans une période aussi, il faut l'insister sur le fait que la Russie commence à connaître des succès assez manifestes sur le terrain et sur le front, voilà.
Général Jean-Paul Paloméros, donc avec nous par liaison vidéo, merci beaucoup de prendre le temps de nous répondre sur CNews, ancien chef d'état-major, je le rappelle, de l'armée de l'air. Je le disais avec Régis Le Sommier il y a un instant, c'est peut-être la première fois qu'une guerre nucléaire est évoquée de manière aussi solennelle. Selon vous, ça reste de la gesticulation stratégique ou il faut le prendre vraiment sérieusement ?
Gesticulation, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que M. Poutine, là, contrairement à ce qu'il a fait à d'autres reprises, et dans l'orthodoxie, sans mauvais jeu de mots, de ce qu'est la dissuasion nucléaire. C'est-à-dire qu'il faut reprendre un peu son discours, et il dit, c'est à peu près la phrase qu'il a prononcée, l'Ukraine est russe. L'Ukraine appartient à la Russie, donc ne venez pas en Ukraine. Ensuite, il dit, si vous franchissez cette ligne rouge, je considère, il, ça il ne l'a pas exprimé, mais c'est ainsi qu'il le pense, je, en tout cas qu'il veut le faire croire, je considère que l'Ukraine appartenant à la Russie est donc un intérêt vital pour la Russie, et donc la dissuasion s'applique pleinement. Donc il est vraiment dans l'orthodoxie, disant si les intérêts vitaux de la Russie sont attaqués et la perspective que l'Ouest puisse envoyer des troupes, il la considère comme une attaque pouvant justifier l'emploi de la dissuasion. Évidemment, tout ça est très discutable, mais c'est sa rhétorique. Donc, en fait, il est complètement dans la logique de dissuasion. Alors qu'auparavant, il laissait planer le doute sur l'emploi de bombes de moindre intensité, etc. Là, on est... Donc, ce n'est pas très surprenant, mais c'est sûr qu'il a été rassérénné par... parce qu'il sait quelles sont les faiblesses de l'Ukraine, et il les voit, c'est transparent en fait. Alors que chez lui, il n'y a rien de transparent.
Mon général, pardon de vous couper, vous l'avez trouvé inquiétant ce discours. C'est quand même, pour les profanes, pour les gens qui n'ont peut-être pas une observation de la géopolitique et de la stratégie du Kremlin, c'est quand même une menace de destruction de la planète qui est brandie par le chef du Kremlin.
Oui, mais...
Est-ce que ça vous a inquiété d'entendre le discours de Vladimir Poutine aujourd'hui, très simplement ?
Non, ce qui m'inquiète, c'est sa confiance, si vous voulez. Il est, alors que l'an dernier, on sentait quand même qu'il était un peu gêné par la situation, et sa confiance, elle est alimentée, paradoxalement, par la faiblesse de l'Ukraine, qui était évidente, et on sait d'où elle vient, notre inaptitude à lui fournir les armes nécessaires au bon moment. Donc, il s'appuie là-dessus. Et non, ce qui est inquiétant, c'est qu'il se sent fort et donc qu'il puisse continuer comme ça à manipuler la dissuasion. Autrement, sur l'arme nucléaire elle-même, comme j'ai tâché de l'expliquer, il n'y a pas de surprise. Le fait qu'il le dise, évidemment, ça choque. Mais on a vécu pendant toute la guerre froide avec des milliers d'ogives. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus les traités pour limiter ce nombre d'ogives, mais dans toutes les cas de figure, il y avait de quoi faire sauter la planète plusieurs fois. Simplement, les chefs d'État, les responsables, ne jouent pas avec cette rhétorique et n'ont pas l'habitude de l'afficher comme ça aussi clairement.
Et je rappelle que la Russie est la première puissance nucléaire mondiale avec plus de 5800 têtes d'ogives à disposition. Je voudrais que vous voyez cette séquence assez édifiante que nos téléspectateurs n'ont peut-être pas vue, peut-être pas vous non plus, je ne sais pas, mon général. C'est cette séquence à la télé d'État russe ces dernières heures avec le présentateur principal qui mène les grands débats autour de l'invasion russe en Ukraine notamment. Il est en roue libre totale, il insulte la France, il menace le président Macron, écoutez-le.
Макрон, конечно, феноменальный кретин. Он просто выжил из ума. Он стал говорить об отправке европейских войск на Украину. Выбери, какой город Франции тебе не жалко. Какой город ты хочешь, чтобы сгорел первым дотла? Какой город Франции ты хочешь, чтобы загорелся первым? Когда такие люди появляются в международной политике, это надо понимать, они сожгут Европу. Да. Будет ядерная война, Франция будет уничтожена. Германия это поняла, отошла в сторону. Шольц же впрямую сказал, вы меня не втягиваете. А Макрону не хочется жить. Ну просто реально не хочется жить.
Mon général, il faut s'habituer à vivre avec ce type de menace. Là encore, cette séquence, elle ne vous surprend pas. On est sur une télé d'État russe, hein, évidemment, qui se fait l'écho du pouvoir.
Oui, ben, ils sont dans l'excès. Hein. Et c'est pas les seuls. Hein. Quand vous voyez l'attitude de M. Medvedev, qui il y a encore quelques années était relativement conciliant, tout le monde s'est radicalisé parce que là, il chasse les bons élèves, en quelque sorte. C'est à celui qui escaladera le plus loin. C'est quand même pas à négliger, hein. Ça touche des millions et des millions de Russes.
Ça entretient l'animosité anti-Occident également.
Bien sûr, c'est comme vous le disiez, c'est une politique interne, hein. C'est de la propagande. C'est de la propagande, c'est asséné devant des milliers et des millions de personnes. Bien sûr qu'on peut absolument pas négliger ça et on n'a pas vraiment d'armes pour lutter contre cette propagande. C'est ça le fond du problème. Comment aller persuader ces populations, que tout ça ne ce sont que des balivernes, qu'on n'a absolument pas envie d'attaquer la Russie. C'est intéressant parce que ce discours, il avait deux côtés. Il avait le côté militaire, mais il avait le côté plus social. Et on se dit que ce pays qui a tout pour réussir s'est engagé, à cause de M. Poutine, dans une guerre sans issue, dans une guerre meurtrière, alors qu'il aurait pu vivre et devenir une puissance tout à fait respectable.
Général Palomero, si vous avez quelques minutes, j'aimerais qu'on puisse faire un petit tour de plateau et puis je reviens vers vous. Vous réagissez d'ailleurs à tout moment si un propos vous interpelle ou que vous voulez ajouter un commentaire. Merci. Philippe Guibert, peut-être. Il montre les muscles, Vladimir Poutine, ça on l'a bien compris. On se demande à qui sont adressés. Régis a commencé à donner sa réponse il y a un instant. D'un côté aux Russes qui doivent voter dans deux semaines, mais à nos opinions publiques également, qui sont quand même, il faut le dire, un peu tétanisées par ce genre de propos également. Et là, je parle de ceux de Vladimir Poutine, pas forcément ce qu'on vient d'entendre de la télé russe.
Oui, bien sûr, mais c'est effectivement un discours qui est à double diffusion, diffusion externe et diffusion interne. Mais je m'étonnais de l'étonnement du général sur le juste jusqu'au boutisme de certains commentateurs russes. Mais enfin, le régime de Poutine fonctionne à ça. La veuve de M. Navalny a fait une déclaration quelques jours au Parlement européen en disant « Poutine est le chef d'une organisation criminelle ».
Tout à fait.
Elle voulait dire par là « mafieuse » et n'hésitant pas à éliminer les personnes qui se mettraient en travers du bon fonctionnement de cette mafia au pouvoir. Mais quand vous êtes une organisation mafieuse, vous avez intérêt à mobiliser la population sur le thème de la guerre. C'est un vieux ressort politique, vieux comme depuis l'Antiquité, de mobiliser la population contre un ennemi extérieur. Et donc le régime poutinien et ses représentants à la télévision russe jouent sur la paranoïa, la crainte de l'encerclement. C'est une vieille peur russe d'être encerclé par l'Occident. Et donc ils jouent à fond là-dessus. Et on peut faire le reproche à Emmanuel Macron, à mon humble avis, d'avoir quelque peu alimenté et donné une occasion à Vladimir Poutine de agiter le spectre de la dissuasion nucléaire et de la menace nucléaire, et en même temps de lui avoir donné l'occasion, dans ce discours annuel, à quelques semaines des élections, même si ces élections sont des fausses élections, justement d'utiliser ce levier qui est le levier de tous les dictateurs, qui est celui de la peur de l'ennemi extérieur contre lequel il faut se défendre.
Justement, alors j'aimerais juste, avant Régis, je vous redonne la parole, je voudrais juste qu'on entende le président de la République qui était loin de cette actualité aujourd'hui puisqu'il inaugurait le village olympique, on en parlera bien plus tard, mais cette question sur ses propos et le fait de les assumer ou pas lui a été posée. Il n'a pas voulu vraiment répondre sur le fond parce que c'est vrai que c'était ni le lieu ni le moment, mais il a quand même rappeler qu'il assumait et qu'il réfléchissait avant de s'exprimer.
En parlant de Russie ce matin, Vladimir Poutine...
Je ne ferai pas de commentaire géopolitique ici parce que ce ne serait pas le lieu.
Il vous menace, le président Poutine,
mais
ce matin ?
Mais je ne ferai pas de commentaire géopolitique ici parce que ce ne serait pas le lieu. Et ce sont des sujets suffisamment graves. Chacun des mots que je prononce sur cette matière est pesé, pensé et mesuré. Et je pense que ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut en parler ou répondre.
Régis Le Sommier, est-ce qu'il y a eu une forme d'inconscience de la part du président en n'excluant pas l'envoi de troupes occidentales? Et en même temps, si on prend le raisonnement inverse, on ne peut pas faire preuve de faiblesse face à un tyran comme Vladimir Poutine?
On ne peut pas faire preuve de faiblesse.
Il a raison d'assumer ses propos aujourd'hui, le chef de l'État?
Il a raison d'assumer ses propos. On espère qu'il ne va pas dire « non, non, en même temps, finalement, je n'ai pas dit ça ». Non, je préfère qu'il les assume. Il est de toute façon, il s'est isolé, il a montré, il a créé une sorte de désunion en Europe. On voit ce qui s'est passé aujourd'hui avec Olaf Scholz. Les Anglais aussi l'ont désavoué, les Américains aussi. Enfin, ça a été quand même une cacophonie, ce projet ou cette possibilité évoquée d'envoyer des troupes. Donc là, Emmanuel Macron s'est isolé et il est très seul. En effet, il a, et je suis d'accord avec Philippe, d'une certaine façon, fourni un peu des armes rhétoriques à Vladimir Poutine pour bondir et pour expliquer qu'il avait des armes nucléaires et qu'il était très fort. Et donc là, oui, il y a eu, je pense, une sorte de cavalier seul pour ma part, qui est très difficile à expliquer parce que, je vais dire, on est quand même la France, que la France ait une volonté d'aider l'Ukraine, c'est louable, qu'il y ait eu cette réunion, qu'il y ait eu cet accord, on l'a oublié aussi, cet accord du 15 février avec Zelensky qui lie la France avec l'Ukraine. Il est très important cet accord, parce qu'il y a un certain nombre de clauses qu'on ne connaît pas et qui, en effet, peuvent expliquer qu'on fasse du bilatéral. Vous savez, le problème qu'a l'OTAN aujourd'hui, c'est que aider l'Ukraine jusqu'à un certain point parce que L'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Et vous connaissez l'article 5 là, qui, si l'Ukraine faisait partie de l'OTAN, eh bien, on rentrerait en guerre.
Tout membre de l'OTAN qui est attaqué est défendu par les pays membres et, en l'occurrence, d'énormes puissances comme les États-Unis ou la plupart des pays européens.
Tout à fait. Et exactement. Et donc, au moment du meeting qui a eu lieu lundi dernier, le premier ministre slovaque, qui lui est hostile à l'aide de l'Ukraine, a remarqué qu'il existait des documents et ces documents expliquant qu'on pourrait aider et envoyer des troupes au sol en Ukraine de façon bilatérale. Et d'où la question, c'est est-ce que l'alliance que la France a fait avec l'Ukraine comporte ce type de clause qui nous mettrait effectivement dans l'idée qu'on pourrait potentiellement envoyer des troupes, sous quelle forme? Est-ce que ce serait des forces spéciales? Est-ce que ce serait... Bon, tout ça, et voilà. Mais en tout cas, il y a un vrai... Il y a un vrai pari assez risqué de la part d'Emmanuel Macron. Et puis, il faut que le Parlement ait son mot à dire. Et aujourd'hui, on a appris... Ça, c'est quand même très important. On a vu quand même Jean-Pierre Chevènement monter au créneau, Hubert Védrine, un certain nombre de gens dire, attendez, on peut pas commencer à expliquer qu'on va envoyer des troupes en Ukraine sans que le Parlement français soit concerné ou qu'il y ait débat. Et là, Emmanuel Macron, je pense, va être obligé d'en appeler à la représentation.
Général Paloméros, je sais que vous voulez réagir, mais est-ce que d'une manière générale, on a trop peur de Vladimir Poutine? Est-ce qu'on est trop prudent par rapport à ce que l'on dit du chef d'État russe et à ce que nos dirigeants font et disent?
Il a quand même soudé l'OTAN, il a soudé en grande partie l'Union européenne, et puis on envoie des armes, on ne les envoie pas assez vite, pas assez tôt, tout ça est trop lent, c'est trop peu. C'est là le fond du problème à mon avis, mais il n'a pas parlé de ça, hein. Et non, mais je voulais revenir sur ces clauses, ces accords bilatéraux. Vous donner mon sentiment. Je ne les ai pas lus. Hein, je ne suis pas habilité maintenant, aujourd'hui. Mais mon sentiment, c'est qu'il n'y a rien de tout ça dans ces accords. Parce que c'est quasiment impossible d'écrire ça dans des accords. Hein. L'Ukraine, vous l'avez rappelé, ne fait partie ni de l'OTAN, ni de l'Union européenne. Il faut rappeler que dans l'Union européenne, il y a aussi une clause de soutien mutuel. Elle est tout aussi forte que l'article 5, même si l'Europe n'a pas forcément les moyens qu'à l'OTAN, on le sait bien. Un accord bilatéral de cette nature qui serait engageant quant à la sécurité de l'Ukraine et qui engagerait donc l'entrée en guerre de la France, je n'y crois absolument pas.
J'aimerais qu'on entende l'ancien Premier ministre Manuel Valls, qui était sur notre plateau ce matin, interviewé lors d'une interview politique par Sonia Mabrouk. Il nous disait ce matin, Manuel Valls, la défaite de Vladimir Poutine est absolument obligatoire. Écoutez-le.
Et nous ne pouvons pas accepter l'hypothèse d'une victoire de Vladimir Poutine qui représenterait la fin de la démocratie ukrainienne, la défaite stratégique, militaire, politique, morale de l'Europe et de l'Occident. Plus rien n'arrêterait Poutine. On le voit avec ce qui se passe aujourd'hui en Moldavie, mais vis-à-vis des pays baltes, par exemple. Et cela représenterait d'ailleurs un message aussi pour la Chine d'agir à sa convenance à Taïwan. Donc l'arrêt et la défaite de la Russie sont indispensables. Et pour cela, il faut agir beaucoup plus fortement et vite. Et il ne faut rien s'interdire. Il n'y a pas de tabou dans ce domaine-là.
Pardon. De quoi parle-t-il exactement? À quelle guerre est-ce qu'il fait allusion exactement? Et au nom de qui parle-t-il? Tiens, Alexandre Devecchio, d'ailleurs, je vous salue parce que vous êtes arrivé en cours d'émission. Alexandre Devecchio qui est avec nous. Bonsoir à vous.
Oui, bonsoir. Votre question était à quelle guerre il ferait?
Ben, Manuel Valls qui dit que Vladimir Poutine doit absolument perdre cette guerre. Valls qui fait allusion à toutes les tensions internationales.
Vous avez raison, on n'est pas censé être directement en guerre. C'est-à-dire qu'il reprend en quelque sorte la rhétorique de Vladimir Poutine qui dit qu'il est en guerre contre l'Occident. En réalité, Manuel Valls le confirme d'une certaine manière par ses propos. Moi, je crois plutôt que les propos du président de la République étaient dictés par un agenda politique intérieur. Et ce qui me le fait dire aussi, c'est les propos de Gabriel Attal qui semblait coordonner en expliquant que les troupes russes étaient sur le sol français et que c'était les députés de Marine Le Pen. Le problème, problème, c'est qu'on ne devrait pas jouer avec ces choses-là à la légère. Et on le voit avec la réaction de Vladimir Poutine. Il a permis à Vladimir Poutine peut-être de renforcer son pouvoir sur le plan intérieur, de nous faire apparaître comme vaguement ridicule, puisque Emmanuel Macron a été quand même démenti dans les heures qui ont suivi par ses partenaires européens. Donc je crois que Jean-Pierre Chevènement a raison. C'est pas sérieux de jouer avec la SAR. Et si c'est sérieux, il va falloir se poser un certain nombre de questions. Parce que quelles troupes envoyer ? Est-ce que nous avons vraiment les moyens, nous, la France, seuls, d'envoyer des troupes face à Vladimir Poutine ? Et pour quelles conséquences ? C'est un pays qui a la bombe nucléaire. Est-ce que vraiment voulons-nous une escalade qui pourrait nous conduire à la Troisième Guerre mondiale ? En tout cas, je ne le crois pas, et les partenaires européens non plus. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'Emmanuel Macron apparaissait comme le plus raisonnable au début. Il disait qu'il ne fallait pas humilier la Russie. Bah, et du jour au lendemain,
il y a deux ans, il nous rappelait qu'il ne fallait pas humilier la Russie. Et aujourd'hui, il dit qu'il n'exclut pas.
C'est pour ça que j'explique la politique intérieure.
Alors, le général qui veut répondre à cela, mon général. Et c'est vrai que de toute façon, pour aller dans le sens d'Alexandre Devecchio, notre armée n'est pas prête. Ça, on en a tous conscience. Pas calibrée pour un conflit de haute intensité avec la première puissance nucléaire du monde. Et quand bien même nous serions attaqués, aurions-nous même, les moyens de répliquer ?
Ah, vous savez, dans notre rhétorique, si on devait être attaqué par une des plus grandes puissances du monde, je pense que là, pour le coup, on est au cœur de la dissuasion. Non, ce que je voulais souligner, j'ai entendu les propos de pas mal de responsables politiques ou d'anciens responsables politiques, c'est bien beau. Oui, l'Ukraine ne doit pas perdre ce conflit. Oui, la Russie ne doit pas l'emporter. So what, mais nous ne sommes pas aujourd'hui au rendez-vous de l'histoire. Enfin, il faut le regarder en face, pour différentes raisons, et en particulier nous, les Européens. Et les Américains ne le sont pas non plus, pour d'autres raisons.
Pour des raisons politiques, mais oui, militairement, ils pourraient l'être.
Peu importe, le résultat est là pour l'instant.
Certes.
Le résultat est là. Est-ce qu'on a vraiment monté notre outil industriel, notre outil de défense en puissance ? Il faut expliquer aux Français, si on a ce discours très clair sur le fait qu'il ne faut pas que la Russie gagne et qu'on n'enverra pas de troupes, et je ne le crois pas du tout, parce que ça déclencherait, comme ça vient d'être dit, un siècle infernal, et quelque part on entraînerait l'OTAN, puisqu'on est un des pays majeurs de l'OTAN dans cette guerre. Je ne crois pas, je ne pense pas que...
Mais général, pardon, mais est-ce qu'un jour, juste, j'en profite pour vous poser cette question, parce que c'est quelque chose que je me demande depuis... est-ce qu'un jour on pourra se passer des États-Unis ?
Ça, c'est une question qu'on est nombreux à se poser depuis plusieurs années. Est-ce que les Européens pourront défendre l'Europe seuls s'il le faut ? Cette question, elle paraissait en filigrane avec les élections américaines de la fin de l'année. Un certain nombre de responsables commençaient à se dire « Ouh là là, ouh là là, ouh là là ». Mais maintenant, il se trouve que ça arrive plus tôt que prévu. Et que je crois qu'on n'a pas assez expliqué qu'une guerre, même fut-elle par intérim en quelque sorte, ça a un coût. Qu'on ne peut pas comme ça, impunément, enfin sans y mettre les moyens, c'est-à-dire en passant vraiment au braquet supérieur, si vous m'excusez cette expression.
Bien sûr.
On appelle ça l'économie de guerre, je ne sais pas, mais on ne peut pas faire des discours aussi forts que ceux qui sont donnés aujourd'hui. Et puis en face, qu'est-ce qu'il y a ? Quels sont les engagements financiers de l'Europe ? Quels sont ? Ils sont là, mais ils sont lointains, si vous voulez.
Il faut assumer ces discours, en mettant en œuvre une politique de réarmement et de remilitarisation, éventuellement.
Mais ce n'est pas dans un an. Et plus le temps passe, et plus on est pris dans l'urgence.
Et la vérité, en plus, et je reviens encore vers vous dans quelques instants, général, si vous le voulez bien, la vérité, c'est que nous sommes depuis longtemps également dans une forme de guerre hybride contre la Russie.
Oui, mais qui
est en fait établi.
Non, j'entends bien, mais qui n'a pas de rapport avec ce qu'a dit Emmanuel Macron, me semble-t-il, dans le sens où...
Non, mais là, on élargit bien sûr le sujet.
Oui, mais il faut être réaliste quand même deux minutes. Il me semble qu'Emmanuel Macron n'a jamais eu l'intention d'envoyer des militaires français sur le front ukrainien. Je crois qu'il a compris, comme l'avaient compris François Hollande et Nicolas Sarkozy, qu'il explique très bien aujourd'hui, que Vladimir Poutine ne comprend que le rapport de force. Donc cette déclaration, c'était une manière à Vladimir Poutine de lui faire comprendre effectivement qu'il fallait éventuellement se mettre autour de la table pour négocier.
Sauf qu'Emmanuel Macron et la France n'ont pas les moyens d'entrer dans un rapport de force avec la Russie.
La France est une puissance nucléaire. Je ne sais pas si vous l'avez oublié. Ça, c'est un fait aussi. Donc la Russie, elle le sait très bien. La France est membre de l'OTAN. Donc Vladimir Poutine, si vous voulez, il est conscient de tout ça quand même. Et Emmanuel Macron, encore une fois, pour bien recadrer le débat, on n'en est pas à se demander si on a les moyens d'envoyer des troupes françaises en Ukraine. Parce que ça n'est pas du tout la volonté du chef de l'État. Et vous disiez tout à l'heure, on ne voulait pas humilier la Russie, c'est le cas aujourd'hui.
C'est Emmanuel Macron qui le disait.
Non, j'entends bien. Mais ce qui était valable il y a 2 ans dans une guerre ne l'est plus aujourd'hui. Parce qu'il y a 2 ans, effectivement, on pensait que cette guerre n'allait pas durer longtemps, que Vladimir Poutine allait vite venir autour de la table. Là, on se rend compte que ça n'est plus le cas. Donc évidemment, les stratégies, elles évoluent.
Maxime Thibault.
Non, mais qui veut la paix prépare la guerre. Sauf que ça fait 40 ans en France qu'on ne prépare plus la guerre. En fait, depuis la chute du mur de Berlin, on est convaincu que les guerres conventionnelles n'auront plus lieu et qu'il n'y a plus lieu de militariser la France. Donc on l'a complètement dépecé. Combien de régiments ont fermé, en fait, depuis les années 90? Combien de savoir-faire militaires ont été perdus aussi en France? C'est ce que disait aussi le général en filigrane tout à l'heure. C'est-à-dire que aujourd'hui, Emmanuel Macron, il peut faire de la politique politicienne, il peut faire de la communication. Mmh. Mais le rapport de force est inexistant parce qu'on sait pertinemment que la France pèse plus grand chose sur le point de vue conventionnel dans des rapports de force internationaux. Elle a heureusement l'arme nucléaire, mais on sait pertinemment que le premier qui appuiera sur le bouton entraînera la fin de notre planète, donc personne n'appuiera jamais dessus. Et à juste titre, M. Poutine a répondu à M. Macron au propos qu'il a tenu, en sachant pertinemment que M. Poutine le savait aussi, que les propos qui ont été tenus par M. Emmanuel Macron n'avaient que pour objectif de la politique interne et le fait...
Vous croyez qu'il est prêt à payer un tel prix pour de la politique interne la campagne européenne? Ce serait particulièrement cynique. La politique est cynique.
Emmanuel Macron nous a Emmanuel Macron nous a quand même habitués depuis 2018, à chaque fois qu'un contexte politique se présentait des élections, de refaire naître la peur afin de pouvoir rassembler ses troupes et rassembler des voix. Là, on a des élections européennes qui se présentent. Il est au plus bas dans les sondages, à 15%. Le parti présidentiel à 15%, le parti de M. Bardella est à 31%. Il a besoin aujourd'hui de restructurer son parti politique et d'obtenir des voix. Il faut recréer un sentiment de peur. Et je pense pertinemment que la déclaration qui a été faite par M. Macron correspond à ce besoin de politique interne.
Ce que je voudrais rajouter à propos, revenir sur l'armée française et sur sa capacité à mener ou non ce type de guerre dite de haute intensité, il faut rappeler que la France a pris part à un certain nombre d'engagements militaires depuis dans les 15-20 dernières années qui ont été des guerres asymétriques, c'est-à-dire des guerres menées au Sahel, menées au Moyen-Orient, avec un ennemi qui se dérobe, des embuscades, un ennemi qui place des bombes sous les routes, et donc un type d'équipement qui a été, je dirais, façonné autour de ça, et une mentalité qui a été façonnée autour de ça. Aujourd'hui, quand vous voyez, moi je me suis rendu sur le front il y a un mois, quand vous voyez les véhicules qui ont été détruits pendant la
Russie a vraiment pris l'avantage sur le terrain.
Oui, enfin, au niveau du rapport de feu, c'est évident, et là en ce moment ils sont en train de grignoter plusieurs kilomètres par jour vers l'ouest depuis la chute d'Avdivka. Donc là actuellement il y a une vraie crainte que le front ukrainien s'effondre. Mais revenir sur l'opérativité des véhicules que nous avons fournis aux Ukrainiens, ce sont des véhicules qui sont en général trop hauts, parce qu'ils ont été faits pour la savane africaine, ils ont été faits avec des blindages en dessous, alors que les véhicules russes qui sont habitués à manœuvrer sur ces plaines sont beaucoup plus plats et beaucoup plus adaptés. Donc si vous voulez, rien que là-dessus, on peut, sur le type de guerre, et je peux vous dire que c'est une guerre, c'est Verdun avec des drones. Et la question des drones, elle n'est pas encore intégrée dans l'armée française. Vous avez des bataillons russes, et notamment le groupe Wagner, pendant sa pleine gloire à l'époque de Bakhmout, qui avait pour lui seul au moins 30 drones différents. Et nous, en France, on en est encore à se demander comment on va fabriquer notre premier drone. Donc, si vous voulez... C'est juste des exemples. Et quand on va, qu'est-ce qu'on va faire? On va jeter nos soldats dans cet enfer de la guerre en Ukraine. L'armée russe est très forte, l'armée ukrainienne est très forte, mais aujourd'hui, très peu d'armées au monde sont capables de mener ce type de combat, y compris les Américains.
Alors, je voudrais juste qu'on voit ces chiffres également, parce que ce sondage qui dit beaucoup également sur l'impact qu'ont eu les propos d'Emmanuel Macron et cette réponse cinglante du président russe, puisque 77% des Français sondés par Odoxa pour le Figaro disent qu'ils sont inquiets par la guerre en Ukraine. Il y a eu un véritable impact donc sur cette séquence géopolitique. Un petit mot, et je voudrais que le général Paloméros puisse conclure cette thématique. Karim Abrik, qui n'a pas encore pris la parole.
77% quand même qui ont peur, donc écrasante majorité. Puis oui, il y a quand même de quoi s'inquiéter, parce que je vous dirais que dans le discours, si on observe le discours de plusieurs politiques, on l'a vu avec M. Valls ou d'autres, on voit quand même que cette petite musique, comme si on nous mettait un petit peu cette graine dans la tête de se dire que oui, ça peut être une possibilité. Ce ne l'était pas il y a quelque temps. Il y avait cette fameuse ligne rouge. On se dit, bon, l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. On va fournir des armes. Mais on essaie finalement, enfin, j'ai l'impression qu'il y a un discours quand même qui est comme ça, qui est distillé un petit peu partout. Et on entend donc, c'est ça, c'est non pas cet appel, mais d'ouvrir finalement nos horizons pour se dire que ça peut être une possibilité. Et ce que je vois aussi à travers l'Europe, c'est qu'il y aura, je pense, certains pays qui veulent qu'on mette plus de ressources, qui parlent même donc de cette économie de guerre, qu'on devrait fabriquer plus d'armes, qu'on devrait envoyer plus de munitions, et d'autres qui sont un peu plus réservés. Alors, je pense qu'au cours des prochains mois, prochaines semaines, il y aura une espèce de bataille aussi à savoir qui va gagner là-dedans. Est-ce que c'est ceux qui décident que finalement on est très, très prudent, ou au contraire, c'est cette logique d'aller un petit peu plus loin? Et il y a des pays aussi qui ont des intérêts un peu différents, ou à tout le moins qui ont plus de craintes. Si on pense aux pays baltes, ils ont plus de raisons aussi d'avoir certaines craintes. Alors quand même, moi, je trouve qu'on a quand même basculé dans un autre discours depuis quelques temps.
Jusqu'où peuvent parler les armes, mon général? Est-ce qu'après plus de 2 ans de guerre, il y a encore de la place pour la diplomatie?
J'en ai pas l'impression, parce que les positions se sont radicalisées, et j'ai peur que le sort de cette guerre soit réglé effectivement par les armes. Et j'espère que ce sera dans le bon sens. Non, si vous me le permettez, je reviens quand même sur les critiques, les appréciations qui sont faites sur les armées françaises. Il ne faut pas tomber non plus dans la sinistrose. On a quand même la deuxième armée de l'OTAN. Ça ne suffirait sans doute pas pour faire face à la Russie en bloc, dans la théorie. Maintenant, qui aurait parié, pas moi en tout cas, il y a 2 ans, que l'armée ukrainienne tiendrait le choc comme elle le tient? Certes, on lui fournit des équipements.
Bah oui.
Ça, c'est vrai. Non, mais c'est bien.
C'est un élément très important, mon général, tout de même.
J'ai construit les lois de programmation qu'on a construites, et on a passé le rabot. J'ai fermé 10 bases aériennes à moi tout seul. Vous savez, j'ai souffert de ça. On a souffert ensemble avec nos hommes et nos femmes. Mais ils sont extrêmement compétents. Je peux vous dire que Monsieur Zelensky serait très heureux d'avoir l'aviation de combat française aujourd'hui.
Bien sûr.
S'il avait l'aviation de combat française, ça changerait complètement le sort de cette guerre. Donc, oui, de toute façon, on n'a jamais envisagé d'aller faire la guerre à la Russie. On n'avait pas aucune raison d'aller faire la guerre à la Russie. D'ailleurs, on fait partie de l'OTAN, d'ailleurs, on fait partie de l'Union européenne, et d'ailleurs, on a une puissance nucléaire. Mais c'est vrai que ce sursaut qui a été engagé en 2017, pour nous, pour qu'on atteigne 2% de notre PIB. Moi, j'ai défendu l'idée des 2% du PIB quand j'étais commandant de l'OTAN devant les chefs d'État en 2014. Ils ont accepté, mais ça a pris du temps parce qu'on voyait cette affaire arriver. Donc maintenant, ce qui veut dire, et je reviens à mon propos de tout à l'heure.
Pour conclure, s'il vous plaît.
Bien sûr, il faut donner du sens aux choses et il faut se donner le moyen, bien sûr. Sinon, les mots sont vains. Ce n'est pas la peine de dire qu'on va sauver l'Ukraine parce que ça ne sera pas vrai.
Merci beaucoup pour cette analyse toujours très instructive, mon général Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette thématique ô combien importante et déstabilisante pour les citoyens que nous sommes. On est en partie rassuré. Oui, c'est une forme de gesticulation stratégique, mais il y a 2 ans en arrière, personne n'imaginait une invasion russe en Ukraine. Donc n'insultons pas l'avenir non plus, soyons prudents.
Est-ce qu'on est prêt psychologiquement à accepter que des militaires français meurent en Ukraine?
Mais ça, c'est aussi une question. Pas forcément non plus, en effet. On reviendra régulièrement sur cette thématique. Il est 23h01, on est un petit peu en retard. Maureen Vidal pour l'essentiel de l'actualité, puis on parle de toute autre chose. Judith Godrèche qui témoignait aujourd'hui devant le Sénat.
« perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans requise à l'encontre d'Ilias A, le meurtrier d'Éric Masson. À la veille du verdict des assises du Vaucluse, l'avocat du principal accusé a fait part de sa peur de voir son client emmuré vivant, selon ses mots. Ilias A est décrit par la cour comme un individu ivre de violence. Enfin, une tête de liste pour la majorité aux élections européennes. Il s'agit de Valérie Ayer, eurodéputée Renaissance. Après plusieurs noms qui ont circulé dans la presse, Emmanuel Macron a choisi cette femme âgée de 37 ans, originaire de la Mayenne, encore largement inconnue du grand public. Enfin, Emmanuel Macron a promis d'aller se baigner dans la Seine, une possibilité qui sera offerte aux Franciliens à l'été 2025 et constituera un héritage important des Jeux Olympiques. Les JO qui doivent inaugurer les retrouvailles de la nage avec la Seine, avec les épreuves de triathlon et de nage en eau libre.
Merci Maureen, rendez-vous dans 30 minutes. Judith Godrèche, l'actrice Judith Godrèche a témoigné au Sénat aujourd'hui donc. La comédienne est devenue la figure de proue du mouvement de dénonciation des violences sexuelles dans le milieu du cinéma depuis qu'elle a porté plainte contre les réalisateurs Benoît Jacquot et Jacques Doyon pour des violences sexuelles lorsqu'elle était adolescente et mineure, bien sûr. Judith Godrèche a interpellé les sénateurs de la délégation aux droits des femmes. Résumé de cette intervention face aux parlementaires avec Marie-Lise Chevalier.
Après des décennies de silence, Judith Godrèche brise le tabou. Ce matin, devant la délégation aux droits des femmes au Sénat, l'actrice livre un témoignage poignant, celui d'une enfant star à qui l'on a volé l'innocence.
Il n'y avait pas de Judith. Uniquement une petite fille sans prénom que se disputaient les adultes libidineux sous les yeux d'autres adultes passifs.
L'actrice dénonce l'emprise des grands et des puissants sur les enfants.
Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait tout un système de protection de l'enfant qui soit mis en place et qu'on arrête de faire semblant de ne pas savoir. Combien de petites filles, de petits garçons seront nécessaires avant que cette société réagisse pour toujours, afin que nous puissions jouer les rôles de notre vie sans nous faire voler notre enfance, abuser, frapper.
Au-delà d'un témoignage personnel, c'est tout un système et un univers que dénonce Judith Godrèche, le patriarcat et le cinéma. L'actrice a cependant rendu un hommage appuyé au juge Édouard Durand, ancien dirigeant de la Civise, cette commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants.
Serait-il possible que les sénateurs, les lois, le gouvernement donnent à notre société la possibilité, la chance, à Édouard Durand d'accomplir son destin héroïque de son vivant.
L'actrice a demandé d'imposer un référent neutre sur les tournages avec un mineur et rappelé qu'un enfant ne doit jamais être laissé seul sur un tournage.
C'est la première fois que le Sénat s'empare de ce sujet. Elle dénonce que Judith Godrèche, un aveuglement collectif pendant des années. L'impression positive que les lignes sont en train de bouger à travers une audition événement.
Oui, vous savez, quand on regarde, par exemple, spécifiquement le milieu du cinéma, on a vu qu'aux États-Unis, ça a été vraiment une onde de choc. Ça a été, en fait, plus qu'une onde de choc, ça a été un véritable tsunami. Mais ça a pris un peu plus de temps, on dirait, en France, avant que vraiment qu'il y ait cet impact. Et maintenant, effectivement, avec la prise de parole...
La différence, je trouve, Karima, et vous reprenez vraiment tout de suite, c'est qu'aux États-Unis, ce mouvement est né de femmes et de jeunes femmes qui ont dénoncé des actes. Et là, ce qui est en train d'émerger dans ce MeToo à la française et dans cette dénonciation, c'est une forme de pédocriminalité également, qui n'est pas, elle, dénoncée dans les MeToo américains, en tout cas dont on n'a pas connaissance peut-être pour le moment. Mais c'est peut-être la grande différence avec le cinéma américain et les médias américains.
Oui, c'est vrai, il y a deux choses, en effet. Mais quand même, je parle quand même le mouvement MeToo, libération de la parole, d'accorder de la crédibilité aussi à la parole des femmes, parce qu'il y a eu aussi une sorte de ressac. On disait, de toute façon, oui, on vous croit, mais pas nécessairement. Donc ça, c'est la première partie. Deuxième chose, je pense, avec l'affaire Matineff, vous avez mis le doigt dessus, je pense qu'on est aussi à se questionner sur un certain milieu à une époque où c'était finalement admis, on dirait, ou presque toléré, ou voire même encouragé. On a vu que, il y avait probablement certains excès à une époque. On disait que tout était permis, il était interdit d'interdire.
Alors, c'était de la pédocriminalité.
Et on parlait à ce moment-là, exactement. Donc, certaines personnes ont fermé les yeux sur des crimes sexuels de pédophiles, littéralement. Et aujourd'hui, ça éclate au grand jour. Pour ce qui est de la parole de Judith Godrèche, je pense qu'effectivement, ça a un impact. Et je pense qu'on peut se questionner à partir de ça, parce que oui, c'est dans le milieu culturel, un petit milieu un peu fermé, mais plus largement la question des violences sexuelles. On le voit aussi hein, dans toutes sortes de cas aujourd'hui, des femmes même de tous les âges qui se font agresser. On peut même parler de certaines femmes, je voyais encore aujourd'hui des histoires terribles, hein, des femmes des nonagénaires qui se font agresser sexuellement et tout ça. Donc, la parole se libère, tant mieux. Et on espère en tout cas qu'il y aurait effectivement plus qu'une prise de conscience.
Alexandre Devecchio, elle a enclenché quelque chose de très fort sur une forme d'omerta, donc dans le milieu du cinéma. Disons, c'est pas la première, bien sûr, mais est-ce qu'on peut dire que elle, contrairement peut-être aux autres qui ont tiré cette sonnette d'alarme, elle a réussi à faire bouger les lignes?
Alors, pour ce qui est de l'enfance maltraitée, je pense que ça se limite pas au milieu du cinéma. Et elle tire la sonnette d'alarme sur des faits qui se sont passés il y a une trentaine d'années. Est-ce que la situation est la même aujourd'hui?
Il y a beaucoup de témoignages qui vont dans le sens d'une forme de complaisance.
Je ne suis pas persuadé. Elle a fait un discours au César, elle en fait un devant le Sénat. Je pense qu'il faut en tirer la conclusion qu'effectivement, quand on a 15 ans, on n'est pas tout à fait un adulte et les hommes ou les femmes qui en profitent, c'est pas cool. Il y a une époque où on jugeait
presque pas cool.
Non, mais Alexandre, je dis pas ça. Oui. Je dis ça parce qu'à une époque, on trouvait que c'était cool. À l'époque des années 80. Les mêmes d'ailleurs qui trouvaient que c'était...
Je comprends mieux l'utilisation du terme.
C'est pour ça que j'utilisais le terme. Donc c'est une faute morale, si vous voulez.
Bien sûr,
à défaut d'être toujours une faute devant la justice. Mais en tout cas, voilà, ceux qui hier trouvaient ça cool, aujourd'hui, veulent le combattre, tant mieux. Il ne faut pas passer d'un excès passé, à une nouvelle forme d'excès aujourd'hui de puritanie. Ça pose aussi la question quand même de la responsabilité individuelle et de l'emprise. Quand c'est de cas de mineurs, l'emprise est manifeste et indéniable, etc. Mais quand c'est le cas de majeurs, et Judith Godrèche a une relation avec cet homme de ses 15 ans à ses 21 ans, il faut le rappeler, est-ce que l'emprise dure quand on est majeur et vacciné, je ne sais pas, c'est quelque chose, c'est une question que je me pose. Maintenant, il est très très dur de juger une époque passée avec les lunettes du présent.
Je voudrais juste qu'on entende ce dernier extrait de Judith Godrèche sur ce petit milieu du cinéma et également où tout le monde savait et tout se passait tout de même.
Cette société, cette petite société du cinéma n'est que le reflet de notre société. Cette famille incestueuse du cinéma n'est que le reflet de toutes ces familles et de tous ces témoignages que je reçois chaque jour. 4500 aujourd'hui, 4500 témoignages de personnes qui, par ailleurs, avaient ancré leur espoir dans la présence du juge Durand à la tête de la Civise.
C'est vrai que le milieu du cinéma, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, ce sujet qui dépasse largement ce cadre,
c'est quand même
ce milieu.
Un milieu particulier.
Oui, c'est un milieu particulier, mais c'est les violences sexuelles envers les mineurs est un sujet de société également.
Bon, mais pour appeler les choses par leur nom, avec des vieux termes qui ne sont pas ceux du code pénal aujourd'hui, ça s'appelle de l'abus de pouvoir et du détournement de mineurs.
Un enfant est agressé sexuellement en France toutes les 3 minutes, pardon.
Oui, mais attention, on parle...
Il y a deux sujets.
Il y a deux sujets. Il y a les sujets des jeunes adolescents et adolescentes. Puis alors, le sujet des enfants, je trouve que c'est évidemment deux sujets gravissimes, mais ce ne sont pas tout à fait les mêmes sujets. Et donc, on ne peut pas, et je trouve que c'est là où Judith Godrèche a parfaitement raison de poursuivre son combat, un peu seul hein, quand même, parce qu'on a vu beaucoup de solidarité pour les gens par rapport à Gérard Depardieu. Là, pour Judith Godrèche... J'ai pas vu beaucoup de prises de parole disant.
Je crois qu'elle disait elle-même qu'elle comptait les SMS et les messages de concert ou de contrat.
Elle a une tribune au César, à peu près l'œil, si on lui décernait un César d'honneur.
J'ai vu une bataille.
Depuis 15 jours, on parle
je que termine, de ça. Alexandre. J'ai pas vu de gens prenant la parole pour dire elle a raison et ce qui s'est passé est scandaleux. Parce que la réalité, ce qui s'est passé est parfaitement scandaleux et qu'on a organisé de l'abus de pouvoir et du détournement de mineurs à travers du cinéma. C'est comme ça qu'il faut quand même appeler les choses par leur nom. Et donc le cinéma a l'obligation de bouger parce qu'on ne peut pas concevoir. Alors admettons que dans les années 70, les normes morales n'étaient pas les mêmes. J'ai un peu de mal à l'admettre, hein, très honnêtement, parce que je ne pense pas qu'il y avait beaucoup de milieux dans les années 70 où c'était considéré comme cool, comme tu le disais, Alexandre. Je pense qu'il y avait des milieux extrêmement, extrêmement fermés et extrêmement réduits.
Un peu plus conservateurs aussi. Mais
attends, je termine.
C'est elle-même qui le dit, que ça donnait une bonne image.
Mais donc, je pense qu'il faudrait maintenant que le cinéma français, par rapport à des films où il y a des adolescents de 13, 14, 15 ans, trouve le moyen d'avoir un meilleur contrôle. Il ne s'agit pas de mettre de policiers, mais de mettre
des gens... Non, mais elle a fait des vraies propositions, hein, avec des encadrements, des adultes référents sur les tournages.
Je trouve que c'est bien.
Est-ce que c'est une forme de solution? En tout cas, faut...
C'est mieux
faut
que
essayer...
laisser...
Non, mais il faut tout
c'est
essayer
mieux que
pour
laisser
faire
des gamins
pour changer
subir des abus de pouvoir.
C'est quand même... Il y avait quand même quelque chose d'assez malsain où, finalement, quelques personnes mal intentionnées, en situation de pouvoir, pouvaient aussi déterminer la suite d'une carrière de quelqu'un. Hein. Donc, c'était la loi du silence qui prévalait et pour certains. Et oui, il y a eu des abus et malheureusement, on espère qu'il n'y en a pas encore. Puis tant mieux si on peut parler de ces choses-là.
Par extension, j'ai envie de dire, on parle également de cette affaire Gérard Miller qui prend de plus en plus de proportions puisque de nouvelles accusations contre le psychanalyste star surgissent. 16 nouvelles femmes ont témoigné dans le magazine Elle, dont on va peut-être voir la couverture, on la verra dans un instant, enfin l'article plutôt. Certaines victimes évoquent une relation d'emprise entraînant des rapports sexuels à plusieurs entre mineurs. Et dans le même temps, la jeune Aude, qui avait 17 ans en 2001, a évoqué chez nos confrères de BFM sa relation avec le psychanalyste Gérard Miller. Je voudrais juste que vous voyez avec moi quelques citations parce que là encore c'est assez édifiant. Rien ne laissait... Alors elle raconte dans un premier temps dans quel cadre elle a voulu le rencontrer. Elle était étudiante au lycée, en terminale L, fascinée par la psychanalyse. Elle a envoyé une lettre comme ça, une bouteille à la mer à Europe 1 et elle a obtenu une réponse immédiate de Gérard Miller qui l'a contacté et qui l'a rencontré. Et elle parle donc de cette rencontre. Rien ne laissait présager ce qui allait arriver. Il était poli, courtois et là, arrivé dans une pièce à la décoration japonaise, il m'embrasse. Cette fameuse pièce est décrite par énormément d'accusatrices. Je le revois, dit-elle, baisser son pantalon. Il sort son sexe, il me demande si j'ai déjà couché avec un garçon. Je lui dis que non. Et là, il me dit, je ne serai pas ton premier. Il me met son sexe dans la main, puis il le met dans ma bouche pour lui faire une fellation. Je suis bloqué psychiquement. L'amnésie a été immédiate. Je me souvenais avoir rencontré Gérard Miller, je l'ai souvent raconté, mais j'ai complètement refoulé la suite. Je n'en ai parlé à personne parce que je n'en avais même pas conscience. Deux petits extraits avant de vous entendre. J'avais juste le sentiment qu'il était malsain quand je tombais sur lui à la télévision sans savoir pourquoi je pensais ça. À ce moment-là, tout tourbillonne, je me sens mal, j'ai envie de vomir, ça m'a littéralement sauté au visage. Puis j'ai eu besoin de parler, de raconter mon histoire. Cette violence m'a submergé d'un seul coup. Ce qui apparaît aujourd'hui comme des abus évidents était à l'époque, c'est vrai, vanté comme de l'audace et l'étau se resserre autour de Gérard Miller, quand bien même, bien sûr, que la présomption d'innocence lui profite, et nous le rappelons ce soir.
Oui, naturellement, il est présumé innocent. Néanmoins, il y a quand même des témoignages qui s'accumulent. On en est à combien de témoignages? On est à 80 témoignages
Plus de 60 témoignages, je crois, dans le magazine Elle, et 3 plaintes officielles.
Voilà, donc, les témoignages s'accumulant, il y a un faisceau d'indices, mais il est effectivement présumé innocent, même si lui n'a jamais respecté en réalité cette présomption d'innocence. C'est vrai qu'il est poli et courtois, Gérard Miller. Il est même moralisateur. C'est un peu le père de la morale qui se retrouve en réalité pris en étau dans l'ensemble de ces témoignages. Donc il y a un côté quand même, si vous voulez, un peu, comment dirais-je, c'est le père la morale qui là se retrouve finalement à accuser de ce qu'il ne cessait de dénoncer lui-même. Il n'avait pas de mots assez durs contre Gérald Darmanin. Il a immédiatement demandé sa démission parce qu'il était accusé par une femme. Donc tout cela, ça serait drôle si vous voulez, s'il n'y avait pas toute cette souffrance derrière de la part de cette dizaine de femmes manifestement. Mais écoutez, attendons les condamnations unanimes de la France insoumise et le tweet de Jean-Luc Mélenchon pour dénoncer les agissements éventuels de Gérard Miller.
Pas besoin de relever l'ironie dans les propos d'Yohann Uzaï. Maxime Thiébaud.
Non mais Gérard Miller, il m'a toujours débecté parce que c'est un vrai par la morale qui n'a jamais respecté la présomption d'innocence pour les autres.
Jamais.
Et donc je m'abstiendrai de tout commentaire par respect pour sa présomption d'innocence.
Eh bien c'est tout à votre honneur. Un dernier mot, Karima, on ne va pas s'étendre outre mesure sur le sujet.
Non, mais c'est-à-dire que oui, il y a la présomption d'innocence, la justice doit faire son travail. Il y a eu effectivement des plaintes qui ont été déposées. On parle maintenant, il y avait le magazine Elle, il y avait Mediapart, on parle d'une soixantaine de témoignages. Moi, je veux juste revenir, il y avait une plaignante, enfin une personne, une femme qui raconte avoir subi des attouchements. Bon, ça s'est passé, elle dit, ça s'est passé, elle avait 23 ans, c'était en 1990, et elle dit donc dans son témoignage qu'elle n'a pas porté plainte. Pourquoi? Elle dit ça lui est pas venu à l'esprit, elle n'a pas eu l'idée
comme
de le faire.
Comme la jeune fille dont on vient de parler.
Elle dit pourquoi? Parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas. Moi, je veux revenir sur un peu ce discours-là. Pourquoi ça ne se faisait pas? Eh bien, il y a eu un changement parce que à une époque, c'était la loi du silence. À une époque aussi, le poids de parler faisait en sorte qu'on étiquetait aussi les femmes. C'était des victimes tout de suite. Donc, avec des collègues, par exemple, de travail ou quoi que ce soit, il y avait des femmes qui n'osaient pas porter plainte en se disant « ben, je serai la fauteuse de troubles, bien ça sûr. Aura des conséquences sur ma vie personnelle, professionnelle ». Donc, ce genre de témoignage, on l'entend souvent et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça a changé. Et quand on entend cette idée, vous savez, bon, c'est pas un slogan, mais on a entendu cette idée de la peur qui change de camp. À une époque, on pourrait presque dire qu'il y avait un préjugé favorable pour... Non pas les agresseurs, parce que finalement, ça se faisait un peu effectivement dans le silence, alors qu'aujourd'hui, ben oui, on accorde un peu plus d'importance aux témoignages des victimes présumées. Cela étant dit, oui, aujourd'hui, ça se passe dans les médias. On peut peut-être le déplorer pour certains. Il y a toujours la présomption d'innocence, mais voilà. Quand même, moi, je pense que c'est important d'être à l'écoute des personnes qui ont des témoignages. Et je pense que ce sont des témoignages importants pour les femmes.
On verra.
Et les hommes, s'il y a des hommes qui
évidemment.
Sont victimes.
Et d'ailleurs, il y a un phénomène qui est en train de monter sur les réseaux sociaux qui s'appelle MeToo Garçon, où certains hommes dans les médias ou dans d'autres milieux racontent et accusent sur le principe du MeToo, bien sûr, féminin. Autre sujet, il n'y aura pas de débat là-dessus. Je voudrais juste évoquer la mémoire de cet homme et vous montrer quelques images parce que ça nous a tous évidemment meurtris. Cet homme qui est mort de chagrin, le cœur brisé. Joanne Davier a été inhumée aujourd'hui, cet après-midi, à Lillers, près de sa fille Lola. Le père de l'adolescente qui était retrouvée morte dans une malle à Paris, dans le 19e arrondissement de Paris, donc en octobre 2022, a succombé à une crise cardiaque vendredi dernier. Je voudrais juste que, après avoir vu ces images, donc dans le nord de la France, on entende quelques personnes interroger des proches du papa de Lola, donc qui a été honoré aujourd'hui.
Familiale, une grande cérémonie de famille, quoi, entourée de tous ses amis, sa famille proche, sa femme qu'il aime tendrement, malgré tout ce qu'on a pu entendre, et puis sa petite Lola qui était aussi très, très important dans ce moment de recueil. Il avait, comme il appelait, ses démons qui l'ont été insupportables, et je pense que c'était une fin en soi, je pense.
C'était un copain, un ami, avec qui on a partagé de bons moments. Petite Lola, on la connaissait. Et on ne voudrait pas que ça nous arrive. Je peux vous dire qu'on a vu la descente aux enfers. Hein. Ah ouais, non, il a pas surmonté. Autant il était éloigné lors des obsèques de Lola, il y avait un déni, il acceptait pas. Et là, que voulez-vous, ça a été la descente aux enfers depuis... plus d'un an maintenant. C'est catastrophique. Sa santé se dégradait de jour en jour.
Donc c'est quand même... C'est déchirant. Depuis le drame, il avait publiquement exprimé son désespoir, son mal de vivre. Il avait avoué avoir replongé dans l'alcool 3 ans après avoir réussi à prendre ses distances avec la boisson. C'est une famille qui a volé en éclats.
C'est surtout s'il y a un père.
Commentaire. Oui, allez-y.
Juste un commentaire. C'est surtout un père qui, dès le moment de la disparition de sa fille, va se mettre à la chercher, va apprendre qu'elle a été tuée, qu'elle a été retrouvée dans une malle. Et quand on dit vraiment descente aux enfers, je crois qu'il n'y a pas pire torture que pu subir un père en apprenant ça de sa fille. En fait, depuis le début, il est là. Et depuis le début, voilà, il est véritablement mort de chagrin, je crois.
Exactement.
Il n'y a rien d'autre à dire.
On se demande si c'est possible de mourir de chagrin. Ce qui a pu tuer cet homme.
Si on a besoin d'un exemple de la souffrance à l'état pur, je pense que le sien est le meilleur, en fait. Et je pense qu'il n'y a rien de pire pour un papa que de survivre à la mort de son enfant. Et il est l'exemple le plus tragique et le plus dramatique qu'on ait pu connaître depuis de nombreuses années en termes de descente aux enfers à la suite de la mort d'un de ses enfants. J'espère seulement qu'il arrivera à trouver la paix là où il est aujourd'hui.
Il est aux côtés de sa fille. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter aujourd'hui. Philippe, on va pas revenir sur l'OQTF, le profil de cette jeune femme accusée. Là, je pense qu'il est seulement temps d'avoir une pensée pour ce monsieur. Non,
sans, quand on parle des...
sans polémiquer sur un drame qui jamais n'aurait dû avoir lieu, nous le disons, mais n'alimentons pas forcément ce propos ce soir.
Oui, bien sûr. Quand on parle des victimes, au-delà des victimes évidemment directes qui sont
c'est tous les proches qui veulent en
éclat. Là, on mesure ce que c'est que d'être une victime, d'être la famille de la victime. Et donc, il est mort de chagrin, oui. C'est comme ça qu'on peut le mieux traduire, sans doute, ce qui s'est passé. Et on l'imagine très bien. Oui, bien sûr, de survivre à l'assassinat, à la mort déjà, mais à l'assassinat d'un de ses enfants et d'une de ses filles, c'est sans doute une des épreuves les plus terribles qu'on peut avoir dans la vie.
Oui, alors une pensée pour la famille et les proches, parce que c'est vraiment une famille qui a été brisée par tout ça. On peut juste leur envoyer nos bonnes pensées.
C'est exactement l'intérêt de l'évocation de ce sujet ce soir, pour conclure. Oui.
Un petit commentaire juridique sur l'accompagnement des parties civiles, des victimes dans les enquêtes pénales.
C'est vrai que c'est très important.
Notre pays est énormément à la traîne aujourd'hui. Les difficultés, moi j'accompagne beaucoup de parties civiles dans des procédures qui ne sont pas forcément aussi dramatiques que la sienne. Et je dois dire que c'est d'une difficulté incroyable parce qu'il y a le secret de l'instruction, le secret de l'enquête, que les victimes n'ont pas forcément d'informations, qu'elles sont dans le besoin d'en avoir. Et je pense qu'il y a une réforme du code de procédure pénale qui doit être faite. Et s'il y a un petit message que je lancerai ce soir et je l'adresse à M. Dupond-Moretti, c'est entendez à travers la tristesse qu'a eu ce papa, toutes les victimes en France qui ont un besoin de réforme de ce code de procédure pénale, pour que puisse être davantage entendu leur cause.
Voilà, on voulait saluer la mémoire de Joanne Davier qui a succombé quelques temps après le tragique drame qui a touché sa petite fille. Sujet suivant, avec la perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans requise aujourd'hui à l'encontre d'Ilias Akoudad. C'est l'accusé au procès du meurtre d'Éric Masson en mai 2021 qui a eu lieu à Avignon, comme vous le savez certainement. Il avait reconnu, après une semaine d'audience, il y a quelques jours seulement, avoir finalement tiré sur le brigadier, mais tout en maintenant ne pas avoir réalisé quelle était sa fonction, à savoir policier. Noémie Schlouch nous résume cette ultime journée d'audience et le réquisitoire.
L'avocate générale et les avocats de la défense se sont livrés une redoutable bataille autour de cette question. Ilias Akoudad savait-il qu'Éric Masson était policier? Ça ne fait aucun doute pour l'accusation. Il vient quotidiennement dans ce secteur, il en connaît tous les acteurs. Chacun sait qui est qui pour l'avocate générale. Ilias Akoudad a exécuté sans sommation Éric Masson parce qu'il était policier. Faux, ont répondu avec force maître Franck Berton et Élise Arfi. Le fonctionnaire n'avait pas de brassard. Un seul témoin raconte l'avoir entendu dire police avant les coups de feu et le doute à marteler la défense doit toujours profiter à l'accusé. Autre enjeu, la peine. L'avocate générale a requis la perpétuité avec 22 ans de sûreté pour protéger la société d'une grenade dégoupillée, d'un récidiviste en puissance. Une peine plus longue que toute sa vie, s'est récriée la défense. Maître Berton a conclu sa plaidoirie par ces mots. On vous demande de l'emmurer vivant, ce gamin de 22 ans. Moi, je vous demande de lui laisser un fil vers le monde. Le verdict sera rendu ce vendredi.
Et avant d'en dire un mot, on écoute l'avocate de la famille d'Éric Masson.
Satisfait de ses réquisitions, bien évidemment, ils sont satisfaits de ses réquisitions. Après, c'est vrai que ça ne le ramènera pas. Et c'est ça la douleur extrême qu'ils ont à subir et qui n'a pas de limite de temps, tout simplement. Donc satisfait des réquisitions, soit, mais peu importe, on dira pour eux... les résultats de ce procès, puisque leur douleur à eux, elle sera éternelle.
En plus, ce serait dramatique que Alexandre Devecchio, que la circonstance aggravante ne soit pas retenue, parce que ça viderait d'une certaine façon le procès de sa substance. La condamnation de cet homme, elle fait aucun doute. Mais si l'assassinat sur personne ou meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique n'est pas reconnu, ce serait quelque chose en moins dans l'issue de ce procès.
Oui, parce que en plus il y a un contexte. Il y a un contexte où certains partis politiques attaquent la police comme si c'était la police qui était responsable des violences policières. Or la réalité, c'est que il peut y avoir des bavures comme dans toute profession, mais c'est la violence.
Là, on est sur un contrôle sur un point de deal. Hein. Ça n'a rien à voir avec.
Oui, non, mais c'est la violence qui s'exerce contre les policiers qui est la réalité qu'il faut dénoncer. Donc, je pense que si la circonstance aggravante n'était pas retenue, ce serait considéré comme une forme, par la police, à juste titre, comme une forme de déni de cette violence qui aujourd'hui les frappe. Et ce serait encore une forme de totem d'immunité pour les agresseurs et pour ceux qui se permettent d'être violents contre les forces de l'ordre, ce qui est quand même un changement de paradigme, parce qu'autrefois les caïds pouvaient être violents à l'égard des autres citoyens, mais surtout ne touchaient pas à la police, parce que c'était la certitude
de ce membre de la French Connection qui témoignait au Sénat ou à l'Assemblée, je ne sais plus,
de prendre une peine à perpétuité ou de à l'époque il y avait même la peine de mort, et aujourd'hui on voit que ça ne fait plus du tout peur aux voyous.
Ce jour de mai 2021, Éric Masson était accompagné d'un collègue qui a suivi évidemment tout le procès en tant que témoin, qui a répondu à Noémie Schulz tout à l'heure.
Nous, comme l'a dit la famille, nous on a pris perpète hein, en perdant notre copain. Donc on n'attend pas moins de la sanction qui sera à son encontre. Quoi.
22 ans de sûreté, c'est ce que vous voulez.
Ah oui. Perpétuité avec 22 ans de sûreté, c'est le minimum qu'il doit prendre.
Les mots de l'avocat général vous ont fait du bien ?
Oui, je trouve que c'est pertinent. Le fait de dire que si on le relâche avant, c'est une grenade dégoupillée, c'est le bon terme. Moi, je ne savais pas, mais je l'ai appris aujourd'hui. Et ce qui prouve un peu l'arrogance de ce jeune homme, c'est le fait qu'il s'adresse aux surveillants pénitentiaires en disant « moi, je suis médiatisé ». Donc, avoir cette attitude-là devant deux jours avant de commencer un procès et là, avoir l'attitude qu'il a en disant en faisant le peu cher, là, comme on dit chez nous, ça ne me convient pas. Ça mérite un peu.
Maxime Thiebaud, les forces de l'ordre ont été frappées au cœur par cette affaire.
Et bien sûr qu'elles sont frappées au cœur par cette affaire, mais elles sont frappées au cœur par toute affaire lorsque des citoyens ou des personnes s'attaquent aux forces de l'ordre. Et ce que disait très justement Alexandre Devecchio tout à l'heure, c'est que malheureusement, on a quand même le sentiment d'impunité aujourd'hui lorsqu'on s'attaque à un gendarme, à un policier. Et il faudrait réinstaurer cette logique que dès qu'on touche un policier ou un gendarme, bah on va au trou, tout simplement. Il faut pas chercher midi à 14h. Ça veut pas dire aller au trou des années, mais il faut marquer le coup. Et il faut vraiment que la sanction soit exemplaire lorsqu'on a la démonstration qu'on s'est attaqué à la force publique, tout simplement. Et malheureusement.
Parce que ce qui s'est passé ce jour-là est révélateur, en effet, pour aller tout à fait dans votre sens, de l'état d'esprit d'une partie de la population. Alors, contre l'autorité, envers l'autorité.
Moi, je ne me permettrai pas de commenter les faits parce que, premièrement, je n'y étais pas, je ne connais pas le dossier pénal, je l'ai vu à travers la presse.
La déontologie également,
donc,
ma déontologie me permet.
Et puis même, en tant que citoyen, je ne me permettrai pas de commenter. Mais j'ai vu, par contre, le commentaire politique. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est de voir une défense politique, notamment de l'extrême gauche, qui venait sous-entendre qu'il ne fallait pas aller trop loin, etc. Et toujours le sentiment de l'excuse qui était toujours en périphrase d'une phrase principale qui venait dire qu'il ne faut pas toucher aux policiers. Mmh. Et ça me choque. Quand on s'attaque à un policier, il doit y avoir une unanimité de tous les républicains à dire qu'on va au trou, point.
Philippe, un dernier mot ?
Il y a une double circonstance aggravante à mes yeux. Non seulement ce qui vient d'être dit sur le policier, mais sur le fait qu'on parle de trafic de drogue. Mmh. Et il n'a échappé à personne que dans la société française, dans des grandes villes, Marseille...
Le mise en cause était sur un point de deal qu'il entendait protéger. Je recontextualise très rapidement
pour
notre
téléspectateur. Oui, vous avez raison, c'est bien de ça dont je parle. La culture de la violence, la montée de la violence et de la violence meurtrière autour du trafic de drogue est un phénomène majeur qui explique d'ailleurs en partie la remontée des homicides dans les statistiques qu'on peut et des tentatives d'homicide qu'on peut observer. Donc il y a une double circonstance aggravante, c'est contre un policier, mais c'est de la part de gens qui sont dans des organisations pour moi pas très éloignées de petites mafias qui ont décidé de faire complètement la loi sur leur territoire. Et donc la société a un double devoir de se protéger et de condamner pour un meurtre d'un policier, mais aussi parce que ces organisations veulent mettre en cause profondément l'ordre social.
Verdict de la cour d'assises du Vaucluse rendu demain et on le suivra évidemment grâce à Noémie Schulz sur l'antenne de CNews. 23h30, une question après l'actu de Maureen Vidal. Faut-il soumettre les demandeurs de logements sociaux à des bonus malus pour leur attribuer ces 10 logements ? Question évidemment qui fait réagir beaucoup de monde. Maureen Vidal.
La réponse de Vladimir Poutine à l'Occident et à Emmanuel Macron, le dirigeant russe, a menacé les Occidentaux en affirmant que la Russie détenait des armes capables d'atteindre leurs cibles et met en garde contre un risque de conflit nucléaire lors de son discours prononcé devant la nation et à 2 semaines d'une élection présidentielle. Aujourd'hui, s'est ouvert le procès des auteurs de l'attentat de Strasbourg. Le soir du 11 décembre 2018, le traditionnel marché de Noël bat son plein au cœur de la ville quand un homme, Shérif Shekat, surgit et ouvre le feu sur des passants. Il rentre ensuite dans un taxi. Le conducteur, encore sous le choc, plus de 4 ans après, n'a jamais pu repratiquer son métier. Enfin, une tête de liste pour la majorité aux élections européennes. Il s'agit de Valérie Hayer, eurodéputée Renaissance. Après plusieurs noms qui ont circulé dans la presse, Emmanuel Macron a choisi cette femme âgée de 37 ans, originaire de la Mayenne, encore largement inconnue du grand public.
Merci beaucoup Valérie Hayer, très à l'aise pour sa grande première en termes de sortie médiatique.
Vous allez nous montrer les images là, je crois.
franchement, la taquine, c'est pas méchant. C'est vraiment pour essayer d'avoir un sourire au cœur d'une actualité un peu très grave même. Valérie Hayer face à Gilles Boulot. Bon, on a l'habitude de Gilles Boulot, tout le monde le connaît, n'est-ce pas Madame Hayer?
Bonsoir Valérie Hayer.
Bonsoir Gilles Boulot, pardonnez-moi.
Mais je vous en prie.
Oh, on est méchant, ouais, on est méchant, c'est gratuit.
Là, vous êtes, je voudrais nous y voir quand même.
Alors ça, vous avez raison. Vous avez raison. On se retrouver aux 20h de TF1 face à Gilles Boulot. Forcément, on perd un peu ses moyens. Il y a encore une fois aucun débat là-dessus. C'est gentil, c'est pour taquiner et avoir un petit sourire. Elle a eu du mal à prendre donc ses marques sur le 20h de TF1. Cette dame que personne ne connaît, hein, mais qui sera la tête de liste de Renaissance. Non, mais un petit mot, hein, et on avance vraiment
très rapidement. On voit effectivement qu'elle n'est pas à l'aise parce qu'elle n'a pas l'habitude des médias. Ce n'est pas quelqu'un qui est très connu, qui a l'habitude d'aller au 20h.
Ah bah on a vu, ouais.
C'était évidemment son premier 20h.
Oh, quelle méchanceté.
Elle n'a pas l'habitude.
Quelle méchanceté.
Elle n'a pas l'habitude de se retrouver dans ce genre de situation. Seulement, les élections européennes arrivent dans 4 mois maintenant. Elle va se retrouver notamment face à Jordan Bardella, qui sera son principal concurrent, face à
quelqu'un qui
est très aguerri, qui connaît l'ensemble des rouages, qui médiatiquement est très à l'aise. Donc, ça va être très compliqué pour elle de débattre avec des candidats comme ça.
Tant que je vous tiens, on va se dire la vérité. Madame Hayer y va parce que personne ne veut y aller.
C'est vrai. Oui, beaucoup de
monde. Je ne suis pas sûr. Non, ça, vraiment, je ne suis pas sûr du tout. Parce que
comme Nathalie Loiseau.
D'avoir l'assurance d'être élu au Parlement européen pour 6 ans, quand on est macroniste aujourd'hui, je pense qu'il y a pas mal de gens qui voulaient.
Les plus connus ont refusé. En tout cas, Richard Ferrand a refusé. Julien de Normandie a refusé.
Mais j'ajoute juste un mot sur la tête de liste macroniste. Souvenez-vous, il y a donc 6 ans, 2000.
C'était vraiment la petite parenthèse, hein. Allez-y.
Madame Loiseau était pas tellement plus connue que cette dame.
Oui, elle est toujours pas beaucoup plus connue.
Elle a commis un certain nombre d'artistes.
Emmanuel Macron était beaucoup plus fort à l'époque.
Un certain nombre de bourdes pendant sa campagne électorale. Ça n'a pas empêché la liste macroniste de faire un bon score. Parce que la vraie campagne macroniste, c'est pas cette dame charmante et que nous respectons tous.
Et attendez,
qui va la faire, c'est Emmanuel Macron.
Nathalie Loiseau, je suis d'accord.
C'est Emmanuel Macron et Gabriel Attal qui vont l'amener.
Bon, on va pas épiloguer là-dessus. Karima, vous vouliez apporter un commentaire très, très, très vite.
Oui, évidemment, on va la juger sur ses actions, sur ses paroles. Et d'ailleurs, il y a une entrevue intéressante, c'est dans le Figaro aujourd'hui. Et elle raconte sur l'Ukraine. On a parlé de l'Ukraine et de la situation en Russie. Et elle dit, la sécurité des Ukrainiens, c'est la nôtre. Aucune option ne doit donc être écartée sur la question
de la pensée du président.
C'est ça. Et ensuite, elle dit, nous devons entrer dans une véritable économie de guerre avec l'achat de munitions. Donc déjà, on a quand même une petite idée sur le front de la politique étrangère et la politique en lien avec l'Ukraine.
Bon courage à Madame
Hayer.
J'essaie de faire la blague.
C'est complètement lamentable, Julien.
Julien, c'est lamentable.
Bon, allez, on avance. Non, vraiment, bon courage, Madame Hayer. C'était vraiment pour l'anecdote. Rien de méchant. Écoutez, la prochaine fois que je ferai une petite bafouillade, qu'elle n'hésite pas à m'épingler sur son réseau préféré. À Compiègne, dans l'Oise, les demandeurs de logements sociaux vont être soumis à un barème bonus-malus. Ça va permettre aux propriétaires de vérifier si les locataires sont aptes à respecter la vie en communauté dans les immeubles, une décision qui ne plaît pas à tous. Explication, Alice Sommerer, Thibault Marcheteau, Adrien Spiteri.
Dans cette cité HLM de Compiègne, certains habitants n'en peuvent plus.
Les gens du quartier se plaignent beaucoup du trafic, etc.
Un cas loin d'être isolé dans ce type de logement. Alors pour améliorer leur quotidien et éviter que des familles de délinquants ne s'installent, la ville a décidé de mettre en place un système de notation des futurs locataires.
Pour moi, c'est une bonne chose.
Je comprends très bien l'initiative.
Dans le détail, si vous demandez un logement social, 10 points sont enlevés si un membre du ménage a été condamné pour violence ou causé des nuisances dans le voisinage, 25 points en cas de condamnation pour trafic de stupéfiants. Le maire justifie cette décision.
Quand on
regard des candidatures pour accéder au logement social ou pour une mutation, il est normal de faire le point de l'ensemble de la situation. Hein, lorsqu'un appartement devient une nourrice ou accueille soit des petits guetteurs, soit des personnages ayant des responsabilités plus importantes, il en résulte des troubles.
L'Association de défense des locataires a de son côté saisi la CNIL concernant la protection des données et la conformité de ce système. Un système qui pénalise, selon elle, l'ensemble d'une famille.
Alexandre Devecchio, voie à explorer ou fausse bonne idée du maire de Compiègne ?
Moi, je pense que de toute manière, pour les logements sociaux, il y a des critères. Mais pourquoi il y aurait simplement des critères économiques et pas des critères de probité, par exemple ?
Un système dans lequel on conditionne l'accès à des droits en fonction de votre parcours passé. J'entends que c'est très efficace. C'est un poil liberticide, non ?
Je crois pas, parce que ce sont des droits, puisqu'on raisonne tout le temps en termes de droits. C'est une forme de solidarité nationale pour ceux qui gagnent moins et qui dit droit dit devoir. Donc si ce sont des personnes qui respectent pas leurs devoirs, moi ça me choque pas, parce qu'il y a d'autres familles qui ont peut-être des moyens juste un tout petit peu supérieurs, qui auraient besoin de logements sociaux et qui ne peuvent pas y accéder. Et puis surtout, ça préserve ces logements qui sont parfois des logements où il y a déjà des problèmes de délinquance, etc. Peut-être de nouveaux
ça veut
problèmes.
Dire quoi ? Et donc, selon votre passé, vous êtes condamné à vie pour accéder à certains logements ou pas ?
Mais se renseigner, faire une enquête, voir si vous payez votre loyer, moi ça me paraît pas si délirant que ça.
Donc une double peine qu'on infligerait éventuellement à.
Ouais.
Non, mais c'est pardon d'avoir une sensibilité peut-être un peu différente sur ce coup-là, mais
un peu de gauche.
Ouh là là, attention.
ça vous est arrivé ce soir.
Il va se passer sur ma fiche. Alors, là, qu'est-ce qu'ils vont mettre du coup,
il est 23h30.
Qu'est-ce qu'ils vont mettre sur ma fiche ?
Mais si t'as des critères objectifs,
par exemple, après les cas, avoir un logement social.
C'est ce que je comprends. Et je me demande si c'est vraiment la solution.
Vous rigolez, mais quand
je rigole pas.
N'importe quel emploi, on demande si vous avez un casier judiciaire, il me semble. Donc ça me paraît pas si fou.
Mais c'est plutôt injuste.
Juger a posteriori, mais vu qu'on juge pas a posteriori, peut-être.
Dans ce cas-là, c'est le maire seul qui prend cette décision de bonus-malus. C'est ça qui peut peut-être faire tiquer un petit peu.
Premièrement, c'est pas lui de le faire. Il faudrait vraiment qu'il y ait une autorité qui soit clairement indépendante pour le faire et qu'il n'y ait pas une emprise politique qui existe. Et puis, il faut des critères objectifs existent. Alors, effectivement, il faut les définir. Mais moi, je trouve pas ça absurde que pour l'accession au logement, surtout qu'il y a une vraie concurrence qui existe, parce qu'on oublie quand même qu'il y a une crise du logement en France qui est énorme et qu'il y a des familles qui restent sur le carreau alors qu'elles seraient peut-être plus méritantes que d'autres qui ne respectent pas l'ordre public et qui, au contraire, le troublent. Donc, il y a déjà sur l'accession, puis il y a aussi sur le maintien. Je pense qu'on a quand même un problème aussi dans notre pays où des personnes sont maintenues dans des logements sociaux alors qu'elles ne respectent pas les règles de
C'est vrai que les logements sociaux, là où vous avez raison, c'est que les logements sociaux sont une ressource rare. Un logement social, c'est pas un dépotoir. Les gens qui y vivent ont droit au calme, ont droit au bien vivre. Alors d'une manière ou d'une autre, il faut durcir les règles. Mais en effet, je me questionne sur la façon dont ça se passe à Compiègne.
Il faut pas de malus à vie, par contre.
Non, mais là c'est un peu un malus à vie. Là c'est un peu un malus à vie, puisqu'on regarde votre passé, combien même vous êtes réhabilité, c'est un malus parce que vous avez. Alors Philippe qui a attendu un petit peu, Régis vous êtes le suivant, c'est premier juré.
Oui, moi je dirais que cette idée me semblerait plus intéressante pour étudier le maintien dans un logement social, parce que quelqu'un qui a un comportement de trouble de voisinage ou de violence. Effectivement, je trouve. Alors, pour le coup, non seulement ça ne me choque pas, mais ça me paraît même assez normal.
On est d'accord, Philippe. Vous savez qu'on le fera pas.
Pourquoi on le fera pas ? Il y a des commissions.
Parce que les juges le font pas. Enfin.
Non, c'est pas vrai. Non, là, autant pour l'attribution, je trouve que d'étudier le CV de la personne pour dire celle-là, elle est à risque, on va pas la prendre, est largement discutable. Quand c'est un maire qui prend la décision, autant pour le maintien ou le renouvellement, il y a des commissions qui peuvent être créées pour des HLM où on fait siéger différentes institutions et on peut prendre une décision avec des locataires qui sont qui ont des comportements asociaux qui sont problématiques.
C'est vrai que dans ce type de logement, vous avez souvent, enfin, quand ça se passe mal, bien sûr, c'est une minorité qui empoisonne la vie d'une majorité. Le cas de Compiègne, je trouve, est un peu extrême. Mais en effet, à un moment, on va plus s'excuser de faire régner la loi et protéger les habitants qui veulent vivre dans la quiétude.
Le vrai problème de ce sujet, j'ai deux remarques à faire. La première, c'est d'abord, pourquoi le maire de Compiègne tout seul décide de prendre ces mesures ? Est-ce qu'il y a d'autres municipalités ?
C'est de la politique.
Non, mais Oui, et puis oui. on n'est pas en période électorale là. Il va pas se faire réélire. Donc il y a probablement un problème sous-jacent à Compiègne. Il y a probablement des abus qui ont été notés, qui ont été notifiés. Lui essaye sans doute de répondre à une situation qui est difficile. Et ça aurait été intéressant peut-être d'avoir son avis et qui motive un petit peu sa décision. Et je voulais savoir, je ne sais pas du tout parce que je connais pas très bien la question des logements sociaux, mais si ça a été fait ailleurs et est-ce que c'est efficace ou pas? C'est ça la question.
Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Il nous reste 4-5 minutes. Je voudrais évoquer le village des Jeux Olympiques rapidement qui a été inauguré par le président de la République aujourd'hui, à moins de 5 mois du début de la compétition. Le président qui a également souligné le travail effectué pour rendre la Seine baignable. Avec, ça risque d'arriver. Emmanuel Macron qui annonce qu'il ira se baigner dans la Seine. Bon, il dit pas quand.
Mais pour les Franciliens, on aura fleuve et Marne qui auront changé là aussi de visage et d'usage le jour d'après.
Vous allez vous baigner dans la Seine ? Vous allez vous baigner dans la Seine ?
Comment,
ouais ?
C'est vrai ? Il y a eu des engagements pris.
Vous allez vous baigner ?
Mais moi, oui, j'irai.
Quand ?
Je ne vais pas vous donner la date, vous risqueriez d'être là. Monsieur
il va falloir mobiliser le service.
Petit clin d'œil. Alexandre. J'irai.
Non, mais il y a.
Petit clin d'œil.
Vous
allez
vous baigner ?
Oui, j'irai. Quand ? Je ne vais pas vous donner la date, vous risqueriez d'être là.
Allez. Alexandre.
Clin d'œil.
On y va ?
Non, mais franchement, je critique souvent le président de la République. Là, il est sympathique.
Jacques Chirac a fait cette promesse sans parvenir à la tenir. On verra pour le faire. Mais ça suffit, les amis. Ça y est, on a assez. On a assez moqué la majorité ce soir. Calmons-nous.
Qui que ce soit, à mon avis, personne n'ira se baigner dans la Seine. C'est bien le problème. Et je vous signale qu'ils n'ont rien prévu pour l'épreuve de triathlon.
Quelques années, mais je m'y suis baigné.
Oui, c'est triathlon, je crois. S'ils ne peuvent pas se baigner dans la Seine, enfin, ça sera transformé en biathlon. Donc,
Si vous me racontez là, pas du tout. Si c'est si je pas dans la Seine, ça sera transformé
non,
en biathlon.
Non, mais il y a pas
et
de.
Le biathlon, c'est du ski. Non, le biathlon, c'est le carabine et le ski.
Excusez-moi. Le sport, oui, c'est le.
Le triathlon. Mais le triathlon, oui, c'est course, natation et vélo.
Ouais.
Et vous me dites que s'il nage pas, ça va devenir du biathlon.
Oui, je vous dis que. Je vous dis que l'organisation.
Mais là, attendez.
Arrêtez de vous moquer. L'organisation des JO n'a pas prévu. Si la Seine s'avère polluée le jour de l'épreuve, nous n'avons pas de plan B.
C'est-à-dire qu'il y aurait deux épreuves.
Et donc il n'y aura que deux épreuves. Voilà ce que je vous dis.
Alors juste, Régis, programme de qualité d'eau et baignade qui a été lancé en 2016 sous l'égide de la préfecture de région. Il comprend un plan d'action de 1,4 milliard d'euros d'investissement financé par plusieurs acteurs étatiques locaux. Ces travaux s'achèveront donc en mai. Qui arrive juste avant les Jeux. Il ne va pas falloir se louper. Vous êtes baigné déjà dans la Seine ?
Oui, je me suis baigné.
Vous avez deux bras, cinq doigts.
Non, non, mais c'était pas, la Seine n'est pas complètement un dépotoir. Là où il y a un problème, c'est quand il y a des pluies, parce qu'en général, ça fait revenir les égouts. Oui. Et
si vous avez un orage trois jours avant, ça compromet la qualité de l'eau complètement.
Voilà, et il y avait eu des épreuves qui avaient été annulées.
Et là, vous faites un biathlon.
Les épreuves avaient été annulées justement à cause de pluies qui avaient. Voilà. Empêcher. Mais la Seine n'est pas. Voilà, moi je.
La Seine est dégueulasse, pardon de dire. Je suis désolé pour le registre que j'utilise, mais dégoûtante.
Il va falloir prévoir un gros service de maladies infectieuses.
Non, mais ils ont fait ce qu'il fallait. Les athlètes qui se baigneront, enfin qui nageront plus.
Bah, pas sûr.
Mais il y avait le.
Moi j'aimerais bien voir le président Macron se baigner.
Il y avait le fils d'Anne Hidalgo qui avait remonté la Seine. Non, mais sérieusement, il y a le fils d'Anne Hidalgo qui avait remonté la Seine depuis sa source. Il est toujours en vie, a priori.
Plutôt descendu.
Bon, n'importe quoi cette fin d'émission, les amis. Hein, je ne félicite pas. On marque la revue de presse. Vous vouliez ajouter quelque chose sur la baignade ?
Non,
c'est bon. La revue de presse. Allez, on me presse.
Il a pas l'oreillette. Très en forme en ce moment, le président Macron.
Non, mais il est dément. Tout va bien.
Pas qu'il se baigne tout de suite. Hein,
tout va bien. Et JO, c'est formidable. Les hausses d'impôts. Macron résistera-t-il aux pressions ? Pardon, j'essaie d'être un peu sérieux. La une du Figaro avec le discours belliqueux de Vladimir Poutine. Également envers les Occidentaux en une. Dans le bandeau, on a Valérie Ayé en haut, vous voyez, tête de liste Renaissance. Le RN, c'est la schizophrénie politique en permanence. Bon, elle a bien pris le pli. C'est parfait. Aujourd'hui en France, les enfoirés, Tiens, bah, les Restos du cœur qui comptent sur nous, diffusé ce soir, donc demain soir, hein, puisque ce sont les unes de demain matin. Le show s'ouvre cette année sur un appel plus solennel à la solidarité, car les restaurants du cœur sont fragilisés entre inflation alimentaire et nombre croissant de demandeurs. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais 4 ans de suspension pour Paul Pogba qui va faire appel de cette décision, si elle est confirmée, malheureusement pour Paul Pogba, c'est la fin de carrière pure et simple, hein, cher Philippe. Je sais que vous êtes un amoureux du ballon rond. Comme
oui,
moi,
et puis on est un admirateur de Pogba, du grand joueur qu'il a été.
C'est un immense joueur.
C'est de sa faute.
Champion du monde.
C'est du foot.
Oh, arrêtez. Non, les échos. L'ultime. Il me fatigue, Yohann, ce soir. L'ultime provocation. Vladimir Poutine brandit une nouvelle fois la menace nucléaire. Il défie sans nommer Emmanuel Macron par une référence implicite à la défaite de Napoléon en Russie. Et on en a beaucoup parlé en début d'émission. Vraiment, pardonnez-moi. Hein, cette fin d'émission est un petit peu chaotique. Marseille. Mais qu'est-ce que c'est que cette une Marseille conquis par les Spartiates. C'est du hockey sur glace. Ben d'accord. Pour leur première saison, j'adore la presse régionale parce qu'on est souvent étonné. Pour leur première saison en élite, les Marseillais ont relevé un double défi. Donc celui sportif évidemment et celui de la popularité. Non, très bien. Les dernières nouvelles d'Alsace.
Marseille
Poutine resserre
glace,
sa menace nucléaire en réponse à Macron et puis le procès de l'attentat de Strasbourg très important et le défilé des victimes. C'était la première journée aujourd'hui. Les DNA qui reviennent bien sûr dessus. Et puis on va conclure avec West France très vite, l'immobilier, la baisse des prix se poursuit. On reviendra également sur Sud-Ouest. Oula.
Un club libertin format.
Un club libertin format XXL, un couple de gigantes. Acheter deux anciennes discothèques à Bordeaux pour en faire un des plus grands clubs sur la de France. Bon ben Alexandre, je sais où vous trouvez ce week-end. Allez, Alexandre, merci à tous. Pardon pour ces dernières minutes un peu légères, mais ça fait du bien de temps en temps. Merci de nous avoir suivis. Martin Mazur a préparé cette émission. Laura, quel est le nom de Laura? Je lui ai pas demandé, qui nous a rejoint aujourd'hui. Laura? Bora Baka. Bah super Laura, qu'on aime beaucoup déjà, qui nous a rejoint aujourd'hui. Coralie Deleplace, Maxime Fer, bien sûr.
Déçu.
L'édition de la nuit avec Simon Guilin. À lundi. Bonne nuit.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.